Vin gai, vin mauvais, vin vermeil, vin métis, vin de messe, vin rêvé, vin coupable, vin de retour des îles. Le vin est plein d'histoires et sous la plume d'un conteur hors pair, elles sont à déguster sans modération.
Vive voix. Chantal Leroux.
Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de votre nouveau roman, Les larmes du vin, qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors, est-ce vraiment un roman ou plutôt une autobiographie œnologique ?
Oui, ah oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, autobiographie œnologique, parce que c'est l'idée quand même de parler de sa vie à travers les différentes rencontres qu'on a eues avec le vin. De l'enfance, hein, moi je commence carrément dans le ventre de ma mère.
On va voir ça dans un instant.
Non, jusqu'à maintenant.
Et pourquoi ce titre mystérieux, Les larmes du vin ?
Parce que les larmes du vin, c'est un peu métaphorique. Les larmes du vin, c'est ce que j'appelle des larmes sans chagrin. C'est des larmes, quand vous versez du vin dans un verre et que vous le tournez, vous voyez ces larmes couler. Et il y a des gens qui m'ont toujours impressionné. Ce sont les gens qui arrivent à lire dans les larmes du vin. Les connaisseurs peuvent vous dire, en regardant les larmes du vin, s'il est plus ou moins alcoolisé, plus ou moins sucré, plus ou moins tannin. Et je me suis dit que ce vin qui laisse des traces, c'était un peu ça dans ma vie, comme dans la vie de tout un chacun. Le vin laisse des traces et des larmes. Et donc, moi, mon travail, c'était de lire dans mes larmes à moi.
Alors, quand vous vous qualifiez de cancre des cépages, d'analphabète du vin, de benêt des chais, ou quand vous écrivez « Mon palais est une voûte céleste plus proche de la grotte de Lascaux que de la chapelle Sixtine », on a un peu de mal à vous croire quand même.
Non, n'ayez pas... Non, parce que c'est... On peut acquérir la langue du vin. C'est une catastrophe parce que des gens parlent une langue, c'est une love langue, une langue ailleurs que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas. Et vous avez le sentiment qu'ils connaissent le vin pour ça. Et donc, quand vous buvez, comme vous êtes incapable de parler cette langue-là, vous croyez que vous ne connaissez pas le vin. Mais vous avez des sensations comme eux, et même d'autres sensations, et même vous êtes capable de dire cette sensation. Moi, je dis simplement, écoutez, quand je bois un vin, je peux vous raconter ce qui se passe dans ma bouche. Je peux même vous parler du tableau qui se peint dans ma bouche. Parfois, bon, c'est du Turner, ça bouge, tout ça. Parfois, c'est du Picasso, j'y comprends rien. Voilà. Bon, mais c'est quelque chose de ce type-là. Et ça, il faut accepter et faire accepter à ceux qui possèdent cette langue de dire le vin comme on le ressent et de ne pas se laisser impressionner par cette langue des connaisseurs. Voilà, c'est tout.
Est-ce que c'est votre expérience de barman à l'aéroport d'Orly qui vous a permis de découvrir ce royaume mystérieux du vin ou est-ce que c'est un univers qui vous intriguait depuis longtemps ?
Bah, déjà, c'est vrai que c'est un univers qui m'a payé mes études, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai été barman à l'aéroport d'Orly pendant plusieurs années, à partir de la classe de seconde jusqu'à l'université. Hein, c'est quand même assez long. Hein. Ça a commencé par un stage comptable et tout à coup, il manquait un barman. On m'a attrapé comme commis et je me suis retrouvé du jour au lendemain. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'ai adoré l'ambiance qu'il y a entre les serveurs derrière le bar. Vous arrivez, ils savent que vous ne savez rien, mais on vous apprend. Vous progressez par erreur, mais vous apprenez. Et puis, il y a une certaine solidarité. Puis, un jour, j'ai tenu le bar de 11h du soir jusqu'à 6h du matin. Et j'avais le droit de discuter une nuit entière avec des gens qui étaient perdus, qui attendaient un avion, qui avaient un avion qui était retardé. Et il y avait plein de stars. À cette époque-là, il y avait des stars dans les années 60 qui prenaient...
Par exemple.
Voilà. Ah, écoutez, il y a Gina Lollobrigida. J'ai servi un nombre inconsidéré d'oranges pressées à Gina Lollobrigida. Et jamais orange n'a été autant pressée. Je peux vous assurer. Mais je ne lui parlais pas. Je n'osais pas. C'était quelque chose. Elle était seule. Il n'y avait personne. L'aéroport était complètement vide. C'est même une image assez extraordinaire que je garde très, très souvent à l'esprit. Oui.
Alors, est-ce que vous avez fini par acquérir la gestuelle que vous enviez au départ, celle des Paganini du limonadier ?
Ah oui, parce que le limonadier, bah oui, bah regardez, quand vous êtes
d'abord expliquer peut-être pour les profanes.
Alors, le limonadier, vous appellerez ça un décapsuleur, mais qui est en plus un tire-bouchon. Et vous avez des gens qui manient ça avec une virtuosité. Et surtout, quand il s'agit d'ouvrir une bouteille avec un tire-bouchon, quoi, de faire le travail d'un sommelier, regardez ces gestes. Et un jour, vous allez avoir cette chance formidable de tomber sur un sommelier qui va vous faire le bouchon qui l'entoure comme ça. il le décapsule et il tient. C'est un truc miraculeux. Demandez ça, il y en a très peu encore qui savent le faire. Non, il y a des gestes. Il y a des gestes dans la restauration. Un serveur, c'est quelque chose de... Il y a une chorégraphie dans les grands restaurants qui est absolument, je trouve, somptueuse. Quoi. Et ce qui semble facile, mais ça ne s'acquiert pas comme ça. Hein.
Alors, le point de départ du livre, Les larmes du vin, c'est le discours que vous devez prononcer lors de la grande cérémonie en Bourgogne où vous êtes intronisé chevalier du Tatevin. Ouais. Cécile Lavolo a demandé à Arnaud Orcel de nous présenter la confrérie des Tatevin dont il est l'intendant général.
La confrérie des chevaliers Tatevin est une association qui a été créée en 1934 pour promouvoir les vins de Bourgogne et la cuisine traditionnelle bourguignonne à travers des banquets et des cérémonies d'intronisation qui se déroulent maintenant depuis presque 90 ans. Chaque année, au château du Clos de Vougeot, nous organisons un salon du livre qui s'appelle Livre en vigne, au cours duquel de nombreux auteurs viennent participer. Et nous avons choisi d'introniser Daniel Picouli, chevalier du Tatevin, puisqu'il fait partie des auteurs qui mettent en avant la Bourgogne. Et il est morvandio, sa mère est morvandielle, c'est-à-dire originaire de la région du Morvan, donc une région bourguignonne. Et on trouvait ça intéressant de pouvoir l'accueillir au sein de notre confrérie. On accueille chaque année une soixantaine d'écrivains aux membres de notre confrérie.
Daniel Picouli, vous avez été surpris qu'on vous propose de devenir membre de cette confrérie ?
Oui, j'étais surpris, mais en même temps, on m'avait expliqué que c'était en fait des personnalités qu'on invitait. On ne se posait pas la question de savoir s'ils aimaient ou connaissaient le vin. C'est vrai que j'ai des attaches par ma maman dans cette région-là. Non, ce qui m'a inquiété, c'était le discours.
Ben voilà, parce que pas d'intronisation sans discours.
Absolument. Donc, on m'avait prévenu, et justement, comme il a été rappelé dans le sonore, à savoir qu'il y avait des tas de personnalités. Alors là, on vous énonçait les académies, les émissions, les prix Goncourt, vous étiez dans une espèce de farandole comme ça, et vous deviez, et on vous attendait, comme on dit, on vous attend au tournant dans ces discours-là. En plus, il y a un cérémonial insensé. Hein. Le carton d'invitation que je décris dans le livre est un vrai carton d'invitation. On vous indique comment vous habiller, comment les femmes doivent venir dans des tenues.
Oui, il y a beaucoup de décorum.
Voilà. Et puis, vous rentrez au son du corps. Vous rentrez au son du corps, vous vous asseyez, il y a 7 verres devant vous qui sont alignés. Enfin bon, c'est assez extraordinaire. En plus, vous êtes chez Rabelais, et en même temps, vous êtes chez le seigneur du château. Quoi. Voilà, en même temps. Non, c'est quelque chose d'assez que j'adore, moi. Et il faut jouer le jeu, c'est-à-dire que quand vous êtes là, bah oui, vous allez faire le bourguignon, oui, vous allez chanter le banc en question, oui, vous allez le faire parce que vous êtes au milieu. Il y a une sympathie, il y a une sincérité, il y a une envie et une passion. Moi, ce que j'aime chez les vignerons, et ce que peut-être qui m'attache le plus au vin, c'est la passion des vignerons. Parler de vin avec des vignerons, c'est parler avec quelqu'un qui a une passion qui ressemble à ceux d'un écrivain ou d'un artiste. On est du même terreau, j'allais dire, en termes de passion. Et ça, c'est formidable. Ça.
Et elle vous est venue rapidement, cette idée de raconter à travers le prisme du vin vos souvenirs, votre enfance, millésimée années 60, votre itinéraire, les rencontres qui ont marqué votre vie ?
Oui, parce que j'ai fait, on m'a invité aussi dans un autre château, dans le Bordelais, pour faire une conférence vin et littérature. Je dis, oh là là, vin et littérature, c'est pas du tout mon sujet, moi. J'ai dit, écoutez, il y a la fameuse... La fameuse parole des conférenciers, si vous ne connaissez pas un sujet, parlez de vous. Au moins celui-là, vous le connaissez, à peu près. Et donc, je me suis dit que j'allais voir à travers le vin quels étaient les moments où j'avais croisé le vin et qu'est-ce que ça m'avait apporté. Au-delà de la connaissance des vins eux-mêmes, qu'est-ce qui a fait que... mon miracle et ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste sur une espèce de ligne de crête de retenue par rapport au vin et qu'on ne cède pas ni à l'abstinence absolue et très rigoriste ou aux excès. Et toute sa vie, on a des moments qui vous expliquent pourquoi vous êtes resté sur ce ligne de crête.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez entendu parler du vin très tôt. Vous étiez alors dans le ventre de votre mère.
Oui, j'aime bien toujours resituer tout. Parce que je trouve qu'on ne fait pas assez d'études pour savoir qu'est-ce qui nous reste de toutes ces conversations que les gens ont tenues au-dessus du ventre de notre mère. On était là, à l'intérieur, il s'est bien passé quelque chose, on a bien retenu quelque chose de tout ça. Et j'imagine donc l'enfant que j'étais, le fœtus que j'étais, a retenu. Et je sais que la première chose, la première fois que j'ai entendu du vin, c'est effectivement avec l'expression « tache de vin » qui m'a un petit peu choqué et qui est cette envie, cette idée que quand une femme est enceinte, si elle a une envie et qu'elle se touche à un endroit, par exemple, elle a une marque et c'est cette envie à jamais. Et moi, j'imagine ma mère ayant une envie, et là, en l'occurrence, j'imagine aussi une amie de ma mère qui a une envie de fraise. Une fraise Tagada. Et ça a marqué son fils à jamais. Et moi, j'avais peur. J'ai comme si j'étais gamin dans le ventre de ma mère. J'avais peur que ma mère ait une envie et que je sois marqué à vie par cette envie-là. Voilà.
Alors, il y avait une autre croyance, les quatre gouttes du bonheur ou les quatre fois bonheur.
Ah, ça, c'est plus qu'une croyance. C'est une pratique encore d'aujourd'hui.
Oui, une tradition, peut-être.
Ah oui, tradition. Oui, complètement une tradition qui fait que je l'ai fait, je l'ai fait à ma fille. Non, c'est cette idée qu'on met une goutte de champagne derrière une oreille, une autre derrière une oreille, une autre sur le cœur. Et puis, mon parrain qui aimait beaucoup l'argent, une autre sur son porte-monnaie. Quoi. Voilà. Mais ça, c'était une petite déviation.
Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mon, c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Des souvenirs d'enfance en France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laisser tout seul en mer. Corsair sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Voyez passer séparé petit enfant, tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer.
Belle île en mer, Marie Galante, Laurent Voulzy sur RFI dans De Vive Voix. Racontez-nous ce que cette chanson vous rappelle, Daniel Piccoli.
Ah, elle me rappelle ma fille et la solitude du papa qui attend la naissance de sa fille. Ma fille est née dans le 11e à Belle-Île-en-Mer. C'est-à-dire qu'il
dans
y a
salle,
dans
cette
la clinique, dans la clinique, il y a Belle-Île-en-Mer, Marie Galante. Enfin, je ne sais pas si c'est d'inspiration Voulzy, mais les salles où naissent les enfants ont un nom d'île. Je trouve ça formidable. Je pense que dans toutes les cliniques, ça devrait être la même chose. Donc, je peux dire, et ma fille peut dire, qu'elle est née à Belle-Île-en-Mer.
Alors, grâce à vous, on découvre ou on redécouvre l'incroyable richesse du vocabulaire, des expressions de la langue française liées au vin. Est-ce que vous le saviez en commençant ce livre? Ou est-ce que vous avez travaillé l'écriture, choisi, recherché les mots, filé la métaphore, un peu comme un exercice en mode Oulipo?
Non, je fais pas. Je le fais naturellement, ce genre d'exercice, parce que je ne suis jamais satisfait d'une écriture. culture qui honore pas la langue française parce qu'elle est belle, bon sang, elle a tellement de richesses et c'est tellement bon. Naturellement, ça me vient. Mais en plus, comme j'ai beaucoup de livres sur les locutions, sur les expressions, tout ça, que je consulte couramment tout le temps, quoi.
Donc ça vous vient spontanément.
Ah, j'espère, oui, mais c'est de la spontanéité et travailler.
Alors, les mots liés au vin sont souvent amusants, comme le mot pompette, qu'aime beaucoup Monsieur apostrophe Bernard Pivot.
Il y a beaucoup de mots qui décrivent l'état éthylique de l'homme ou de la femme, mais j'aime bien cette expression un peu pompette, j'aime bien. Un peu gris aussi, ce sont des termes qui sont très savoureux, qui sont presque poétiques. Alors, un petit peu pompette, ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin, il faut s'arrêter. On est bien, on est joyeux, on est gai, voilà, mais il faut arrêter de boire. Mais par exemple, je n'ai été ivre qu'une seule fois dans ma vie, à l'âge de 14 ans, parce qu'on m'avait saoulé, il faut bien le dire, c'était pendant les vendanges. Mais depuis, jamais je ne...
C'est en fait quand vous arrêtez ?
Oui, parce qu'à un moment, je sais que le plaisir s'arrête là et que c'est idiot de boire davantage parce que mon corps n'en retirera aucun bénéfice et surtout mon palais n'y prendra plus de plaisir.
Vous aussi, Daniel Piccoli, il vous plaît ce mot pompette avec, je vous cite, des grôles de clown et une drôle de trompette.
Oui, c'est ça, c'est pour moi, c'est un mot de gosse, quoi. Quand on est tout petit, que ça tourne et qu'on ne sait pas pourquoi, bah oui, on dit qu'on est pompette, quoi. Et c'est vraiment un mot d'enfant, oui.
Alors, vous aviez un parrain fantasque surnommé Black Jack. Votre mère vous raconte qu'après sa brusque disparition, il a envoyé de l'étranger pendant 3 ou 4 ans, pour votre anniversaire, des vins comme lui, des vins bizarres. Alors, vos parents n'ont pas gardé les bouteilles. Ils les ont bu, à votre grand regret. J'aimerais bien que vous nous lisiez cet extrait de votre livre.
Oui, alors c'est un parent très particulier. Il était en voyage et je crains bien qu'il ait été en voyage en Argentine, là où un certain nombre de collabos ont terminé leur vie. Et lui, il était du genre mi-maquis, mi-collabo, quoi. Bon, donc passage. Incroyable. L'amant ne se souvient pas quel vin bizarre j'ai reçu pour mes anniversaires. Alors, je les ai imaginés. Pour mes 1 an, un vin de glace, le Yeti, fait à partir de raisins vendangés sous la neige. À mes 2 ans, une bouteille de Sherpa, un vin de l'extrême qui pousse à plus de 5000 mètres d'altitude sur une pente à 30 degrés. Pour mes 3 ans, Hogar, un vin récolté à dos de chameau au milieu du Sahara avec une rose des sables sur l'étiquette. À 4 ans, Abyss. Une amphore d'un vin sous-marin récolté en batiscaf dans la fosse des Philippines à déguster avec palme, masque et tuba. Pour mes 15 ans, un vin de cinéma, les Tontons. Un vin voyou, sulfaté rouge sans premier cru et blanc de noces, du 24 degrés seconde, 3 cépages royaux, du Volfoni italien, du Naudin rustique et du Folas Folas, robe de deuil, bouquet de chrysanthèmes et cordite, né de bourre-pif, audiard en bouche et palais de justice, silencieux au débouché. Ces vins bizarres auraient tout changé si je les avais connus. J'avais de quoi rêver, je serais devenu... trappeur, chasseur d'ours au Canada, méhariste, scaphandrier, sherpa dans l'Himalaya, cascadeur ou vendeur de tractopelles à Montauban.
Daniel Piccoli, un vin, avant même le goût, peut donc faire rêver de par son étiquette, sa provenance ou son nom. C'est ce que vous venez de démontrer.
Ah oui, oui. Et moi, j'étais gamin. Les bouteilles qui erraient quelque part, je les plongeais dans l'eau, je décollais les étiquettes, je les faisais sécher, je les passais en fer à repasser et je les collais dans un cahier. J'avais un cahier. Moi, j'ai eu un cahier d'œnologue très tôt parce que rien que les intitulés des vins étaient déjà de la poésie.
En lisant Les larmes du vin, on se rend compte aussi de la place qu'a longtemps occupé le vin dans les habitudes des Français. L'habitude, par exemple, d'offrir un canon, comme le faisait votre mère, quand les éboueurs, livreurs, matelassiers, aiguiseurs de couteaux venaient chez vous, à la maison. Est-ce que ce rituel convivial n'est pas en voie de disparition aujourd'hui ?
Oui, certainement, parce que déjà, il y a quelqu'un qui a quasiment disparu, c'est le payeur des allocations familiales. C'est-à-dire que c'est celui qui était le reçu avec le plus
d'égards.
Ah oui, le canon le plus somptueux. honteux, celui-là. Et puis parce qu'il venait avec sa sacoche pleine de billets, ce qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et là, celui-là, il a eu des vins que personne d'autre n'a connus. Non, bien sûr, cette convivialité, elle est difficile parce que, d'abord, il y a moins... Je vois mal dans une cité. Moi, j'ai habité dans une cité. Je vois mal. D'abord, j'avais plus de gens qui venaient livrer le charbon. Les aiguiseurs de couteaux, ils ont disparu. Les gens qui faisaient les matelas, tout ça a disparu. Et pourtant, c'était toute une communauté qui circulait dans la maison et qui entrait, soit qui restait sur le trottoir quand c'était les livreurs du charbon, et qui entrait petit à petit jusqu'aux payeurs des allocations familiales.
Et le vin servait de liant, en fait.
Ah, complètement. C'était un liant et il y en avait une consommation quand même énorme. C'est-à-dire que ce vin de table, ces vins dont on déconsignait les bouteilles, vous savez, ces vins avec les étoiles sur les bouteilles, nous, ça a été notre argent de poche. Nous, on se dépêchait, les gosses, de déconsigner tout ce qui pouvait se déconsigner pour aller s'acheter des choses après. On avait un petit boulot, nous. C'était déconsigneur de bouteilles.
Et vous écrivez qu'en regardant le charbonnier et sa main blanche boire lentement son verre de vin, vous imaginiez qu'au fur et à mesure qu'il buvait, son corps devenait blanc. Ouais. Et vous ajoutez, le vin du charbonnier avait ce pouvoir. Pourtant, dans les 36 façons de dire avoir trop bu aux côtés d'être beurré, bituré, murgé, pinté, raide, torché, paf, déchiré, cramé, il y a être noir. Ouais. Mais pas être blanc. Pourquoi avez-vous pensé à la main du charbonnier quand elle sortit en 1962 dans la peau d'un noir, ouais. Like Me, ouais. Du journaliste américain ouais. John Howard Griffin?
Parce que c'est une histoire qui m'a toujours rendu perplexe et songeur. C'est-à-dire, cet homme blanc, avec un traitement, des piqûres, a eu l'apparence d'un noir, il a vécu dans la peau d'un noir et il l'a raconté. Mais je dis, on ne vit pas dans la peau d'un noir quand on peut à tout moment retourner à sa couleur, redevenir le journaliste d'un... Ça n'a aucun sens. Je trouvais là qu'il y avait, pour parler un peu crûment, une escroquerie. Je trouvais que c'était cette idée aujourd'hui, comme on pourrait dire aujourd'hui, pourquoi on se dirait qu'on va se mettre dans la peau d'un SDF ou d'un sans-abri en dormant une nuit dans la... Non, parce que le fait d'être dans cette situation, c'est une situation sans espoir. Il n'y a pas l'espoir de redevenir blanc quand on est noir et quand on est un sans-abri ou quand on est un réfugié, de devenir tout à coup quelqu'un d'autre. Donc je n'aime pas ça.
Mais peut-être qu'on peut faire comprendre une réalité à des gens qui ne la soupçonnaient même pas.
Oui, mais faire comprendre cette réalité-là, c'est celle effectivement que je pouvais rencontrer et que j'aimais, d'ailleurs, dans 5 colonnes à la une, quand j'étais gamin. J'avais l'impression, effectivement, qu'on m'emmenait dans des réalités. Mais je trouve que sur des sujets qui sont aussi douloureux aujourd'hui, ça me gêne. Voilà.
Alors vous partez d'un souvenir d'enfance et puis, mine de rien, vous bifurquez sur le racisme aux États-Unis. Mmh. Par exemple, et c'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage aussi, Sidney Poitier, qui s'est éteint vendredi dernier, devient en 1964 le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, un événement dignement arrosé par vos parents.
Oui, parce que Sidney Poitier, c'est d'abord le premier noir, même si Hattie McDaniel a eu le premier Oscar pour une actrice noire, mais c'est le premier. D'abord, pour moi, il aurait dû avoir l'Oscar pour La Chaîne. La Chaîne, en 58, c'est un film absolument extraordinaire que je demande à tout le monde de regarder. Et là, j'ai découvert, effectivement, mes parents ont fêté ça, et particulièrement ma mère, la Morvandiote, était celle qui était la grande défendeuse, j'allais dire, de la situation des Noirs. Mon père était celui qui, quand il subissait ce que moi, aujourd'hui, j'appellerais un peu de racisme ou de discrimination, il disait, mais Paulette, t'inquiète pas de ça. Elle, pas du tout. Quand elle allait le voir boxer et qu'elle entendait qu'on l'appelait Blanchette, elle était avec son parapluie et elle frappait tout ce qu'il y avait autour d'elle. Donc, c'était elle. Et c'est elle qui a voulu qu'on fête la victoire de Sidney Poitier avec un vin noir, un Malbec. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré chez ma mère, c'est que c'était elle la pourfendeuse, quoi. Et le père, non, t'inquiète pas, Paulette.
Daniel Picouli, comme chaque lundi dans De Vive Voix, on va retrouver la chronique Ailleurs, qui nous emmène aujourd'hui en République démocratique du Congo. On se retrouve juste après. Élodie Chabert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice déléguée de l'Institut français de Kinshasa. Vous avez créé avec les autres centres culturels européens présents en RDC et la délégation de l'Union européenne, Makomi, un prix littéraire ouvert à tous les auteurs écrivains congolais. Comment va se dérouler cette 4e édition de Makomi ?
Alors, nous avons lancé l'appel à candidature au mois de décembre, un appel à candidature un peu tardif pour les raisons que vous imaginez, la pandémie et les incertitudes sur la tenue de la fête du livre auquel le prix est très lié. Nous l'avons lancé donc parce que nous souhaitons continuer à promouvoir cette littérature congolaise qui est très productive et qui mérite d'être connue. Donc nous recevons actuellement jusqu'au 15 janvier les candidatures de tous les écrivains, alors amateurs ou confirmés, qui souhaitent candidater mais qui ont publié dans le courant de l'année, donc entre février 2021 et janvier 2022.
Quelle que soit la forme, poésie, roman, nouvelle, théâtre ?
Quelle que soit la forme, tous les styles littéraires sont admis, mais nous acceptons aussi bien les essais que la poésie, le théâtre ou les romans.
Quelle place occupe la littérature dans la culture congolaise, à laquelle on associe peut-être plus facilement la musique ou la peinture?
C'est vrai que la musique et la peinture ont une place très importante sur la scène artistique congolaise, mais la littérature est importante aussi. Ce qui pêche peut-être, c'est les conditions de diffusion du livre. Et c'est là que c'est difficile pour les auteurs de publier à la fois leurs ouvrages et de les faire lire, de les donner à lire au public congolais. C'est dans ce cadre qu'est né le prix Makomi en 2017, prix européen de littérature congolaise, pour mettre en valeur justement cette créativité, puisqu'on le voit notamment ici à l'Institut français, on le voit aussi au Centre Wallonie-Bruxelles qui a une médiathèque et qui est notre partenaire au sein du Pôle Unique. Il y a énormément d'écrits, mais des difficultés de diffusion et de connaissance par le public de ces écrits. Donc nous espérons à travers ce prix notamment pouvoir donner un peu plus de visibilité à ces auteurs et à leurs textes.
Quand aura lieu la remise des prix ?
La remise des prix aura lieu dans le cadre de la fête du livre de Kinshasa, la 8e édition, qui se tiendra dans tout le pays du 1er au 20 février et à Kinshasa du 4 au 12 février. Et donc la remise des prix aura lieu au moment de la clôture de la fête du livre à Kinshasa le 12 février 2022.
Merci beaucoup Élodie Chabert d'avoir été avec nous. Bonne journée à Kinshasa.
Merci à vous et bonne journée.
Daniel Picouli, votre père était antillais, vous avez donc de lointaines origines africaines. Quel est votre rapport à ce continent aujourd'hui ?
Ah, j'ai un rapport qui est très 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 serré. D'ailleurs, mon prochain roman s'appelle « Le crépuscule des Amazones » et se passera à côté du personnage de Béanzin, le roi du Dahomey. Et j'ai tout son itinéraire, parce que je fais une succession de romans qui doivent me rapprocher de ce que j'appelle chez moi, comme ça en m'amusant, le Picouli zéro. C'est-à-dire le premier Picouli qui est parti d'Afrique. Et depuis que j'ai lu Racine, quand c'est sorti, ce Roots, c'est un livre qui m'a émerveillé. Mais plus que ça, il m'a interrogé sur l'idée qu'il y avait quelque part un homme ou une femme, un homme et une femme, qui sont partis d'Afrique et qui étaient ses premiers Picouli. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et quand j'ai même lu l'histoire de Sidney Poitier. Sidney Poitier, il est né aux Bahamas. Il s'appelle Poitier parce qu'il est de cette filiation de premiers esclaves d'un monsieur qui s'appelait Poitier, 80 esclaves, Poitier, aux Bahamas, qui sont devenus et qui vont jusqu'à... Alors, je ne sais pas s'il y a un Picouli qui a fait le même itinéraire aussi somptueux que Sidney Poitier, mais cette idée-là, je la trouve formidablement, pas seulement romanesque, mais je trouve que c'est presque un devoir de mémoire personnelle que j'ai à l'égard de ce nom un peu étrange, Picouli.
Littérature, télévision, théâtre, vous êtes multitalent. Est-ce que remonter sur scène vous démange ?
Ah, mais plus que ça, ça va se faire. C'est-à-dire que Les Larmes du Vin, j'ai déjà fait une adaptation en seule en scène des Larmes du Vin. Et je commence pompette, d'ailleurs. c'est dans le ventre de ma mère. Mais je m'aperçois que j'arrive à une heure et un quart j'ai à peine parlé de mon parrain. Donc, vous voyez, il faut que je me dépêche un petit peu. Non, mais c'est bien sûr que j'ai. Et Avignon, j'y suis allé passer la fin d'année et j'ai voulu assister même à un spectacle de théâtre le 31 janvier parce que j'aime aller à Avignon, j'aime le théâtre et je peux vous assurer que Enfer est une des plus grandes joies que j'ai pu atteindre. Oui.
Merci beaucoup, Daniel Picouli, d'avoir été notre invité. J'invite nos auditeurs à lire votre dernier livre, Les larmes du vin, paru chez Albin Michel. C'est un roman à la fois drôle, émouvant et puis écrit dans cette langue savoureuse qui est la vôtre. Merci beaucoup. À demain et portez-vous bien.
Merci à vous.